Radio Prague, les informations.
15% des Tchèques seulement pour l'adoption de l'euro. La ministre des Affaires étrangères du groupe de Visegrad réunie à Bratislava. Pétition contre la suppression d'une partie des transports par autobus en Bohême centrale. Selon un sondage réalisé par l'agence Media Research, 15% seulement des habitants adultes de République tchèque se sont prononcés pour l'adoption de l'euro. En revanche, plus de trois quarts des personnes interrogées, au total 77%, sont contre l'entrée de la Tchéquie dans la zone euro. 57% se sont déclarés même tout à fait opposés à cette éventualité. Les ministres des Affaires étrangères du groupe de Visegrad, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Pologne, se sont réunis ce jeudi à Bratislava afin de discuter de la suite à donner à la collaboration avec les pays du partenariat oriental. Le ministre allemand Guido Westerwelle, la représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Catherine Ashton, le commissaire européen en charge de l'élargissement, Stefan Füle, et cinq représentants des pays du partenariat oriental ont également été invités. Priorité de la République tchèque lors de sa présidence de l'Union européenne et inaugurée à Prague en mai 2009, le partenariat oriental est un accord d'association que l'Union européenne a conclu avec 6 pays anciennes républiques soviétiques. 15 470 personnes ont signé une pétition contre la suppression d'une partie du réseau de transport par autobus en Bohême centrale. D'autres personnes se sont jointes à cette initiative sur Internet et sur Facebook. Les initiateurs de la pétition ont remis ce document ce jeudi au siège du Conseil régional de Bohême centrale. Le ministre tchèque de la Culture, Jiří Besser, a relevé de ses fonctions le directeur intérimaire de l'Opéra d'État de Prague, Radim Dolanský, et a confié ce poste au directeur actuel du Théâtre national de Prague, Ondřej Černý. Radim Dolanský voulait conserver l'Opéra d'État en tant qu'établissement indépendant, mais le ministre ne voit dans la capitale tchèque que l'espace pour un seul grand théâtre lyrique et prépare une réforme dans ce sens. Les éditeurs tchèques protestent contre l'augmentation prévue de la taxe sur la valeur ajoutée de 20%. Cette mesure frappera non seulement le marché des livres, mais aussi les périodiques, les journaux et les revues qui deviendront moins accessibles pour le grand public. L'Union des éditeurs appelle donc le gouvernement tchèque à réduire la TVA sur les périodiques. Les organisations culturelles de République tchèque participent à une vingtaine de projets subventionnés par le programme Culture de l'Union européenne. Le montant des subventions atteindra 6,5 millions d'euros. Météo. Ce jeudi, fête de tous les Kamil, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie est nuagé à couvert et les températures se situent entre 3 et 7 degrés pour les maximales. Vendredi, le ciel en Tchéquie sera clair à presque clair et les températures diurnes s'échelonneront de 4 à 8 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter. Et nous cédons le micro à Guillaume Larguet.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à tous et à tous. Merci donc à Václav pour ce bulletin d'information et merci à vous également d'être fidèle à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Une actualité dominée à l'échelle nationale, notamment par l'augmentation confirmée de la TVA par le gouvernement dès l'automne prochain. Un taux unique à 20% doit permettre de financer la réforme des retraites. Plus de détails dans quelques instants. En attendant son premier film, l'ancien président Václav Havel présente sa future bibliothèque. Nous la présenterons également avant de terminer avec l'enregistrement à Prague de la musique du spectacle du Puy du Fou en France. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une très bonne écoute à toutes et à tous. C'est désormais une quasi-certitude. La TVA augmentera bel et bien dès le mois d'octobre prochain, à l'exception de quelques produits alimentaires de base qui resteront taxés à hauteur de 10%, comme cela est le cas actuellement. Un taux unique à 20% sera appliqué sur tous les biens et services afin de financer la réforme des retraites, dont la version finale sera bientôt présentée. Les leaders des trois partis de la coalition gouvernementale se sont entendus sur ce point mercredi. Le cabinet a donc décidé de ne rien modifier au projet de réforme des retraites dont les grandes lignes avaient été présentées mi-février. Les affaires publiques notamment, une des trois formations de la coalition, espérait pourtant voir notamment le chauffage et d'autres produits alimentaires s'ajouter à la liste des 7 exceptions pour lesquelles un taux réduit à 10% continuera d'être appliqué. Cette liste de 7 exceptions comporte le pain, le lait, les légumes, le poisson, les pommes de terre, la nourriture à base de lait pour les enfants et les produits alimentaires destinés aux personnes souffrant de problèmes métaboliques. Le parti Top 09 estimait, lui, que les livres et les médicaments devraient également faire l'objet d'une exception, mais le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, lui-même vice-président de Top 09, a fait savoir à ses partenaires de la coalition que seuls 7 milliards de couronnes et pas une couronne de plus seraient débloqués pour compenser le manque à gagner sur les produits restant taxés à 10%. Du coup, le passage de la TVA à 20% touchera bien tous les biens et services, et comme l'ensemble de ses collègues au sein du gouvernement, le vice-président du Parti civique démocrate Alexandra Vondra s'est félicité de la décision prise mercredi de ne rien modifier au projet d'origine. On l'écoute.
Je considère comme très raisonnable de nous être entendus sur le fait qu'il n'y aura pas d'autres exceptions que celles convenues initialement. Chaque nouvelle concession aurait entraîné des demandes, d'autres exceptions, et cela aurait paralysé l'idée de la réforme. Or, nous avons vraiment besoin de moyens pour mettre en œuvre notre réforme. Il n'y a pas d'autre solution rationnelle que celle envisagée. Le but est d'être capable à l'avenir d'assurer le bon fonctionnement du système de financement des retraites en tenant compte de la courbe démographique actuelle.
De son côté, le Premier ministre Petr Nečas a répété que l'argent récolté grâce à l'unification du taux de TVA servirait exclusivement de réserve permettant de compenser le déficit du système des retraites et non pas aux dépenses de l'État. Avant de pouvoir entrer en vigueur, la réforme, dont la version définitive sera présentée prochainement par le ministre du Travail et des Affaires sociales, doit encore être débattue, d'abord par l'ensemble du gouvernement, puis par le Parlement, a priori une formalité, étant donné la répartition des forces à la Chambre des députés, et du coup, Petr Nečas voit déjà plus loin et pense aux autres réformes planifiées. La réforme de la santé n'attendra pas. Les événements de ces dernières semaines et derniers mois, avec le mécontentement des médecins hospitaliers, ont clairement démontré qu'il est nécessaire de procéder à de profonds changements dans notre système de santé. Même si le gouvernement entend trouver un consensus et l'adopter dès que possible, cette réforme du système de santé reste cependant pour l'heure beaucoup plus abstraite que celle des retraites. L'ancien président de la République, Václav Havel, sera très présent dans les médias en ce mois de mars. C'est le 24 que sort en effet en salle son premier film, un événement attendu impatiemment par la critique et le public. Et cette semaine, Václav Havel a présenté à la presse sa bibliothèque, un projet qui lui tient à cœur depuis déjà quelques années et qui est lentement mais sûrement en train de se concrétiser, comme nous l'explique Alexis Rosenzweig.
La bibliothèque de Václav Havel, il s'agit d'un concept inspiré des bibliothèques d'anciens présidents américains qui rassemblent leurs travaux et archives, mais le dramaturge et ancien dissident devenu chef d'État est trop original pour vouloir copier des modèles préexistants, il veut y ajouter un côté social, on l'écoute.
Je serais heureux si cela pouvait devenir plus qu'un musée, si on pouvait en faire une sorte de club. Un lieu de rencontre entre les gens. D'ailleurs, je pense que cet espace est fait pour ce genre d'usage.
Cet espace, c'est un palais de la Renaissance situé dans le quartier de Hradčany, à quelques mètres du château de Prague, où a notamment vécu la veuve de l'ancien président tchécoslovaque Edvard Beneš. Ce projet est en préparation depuis plusieurs années. Nous avons longtemps cherché un bâtiment adéquat, indique l'homme d'affaires Zdeněk Bakala, qui a acheté ce palais et est ainsi devenu le principal sponsor de ce projet de bibliothèque. Il estime à 200 millions de couronnes, plus de 800 000 euros, le montant des travaux de rénovation, qui seront dirigés par les architectes espagnols Ricardo Bofill et tchèque Marek Tichý. Ces travaux devraient durer 2 ans. Avant d'entamer la rénovation, il reste cependant un problème à régler. avec le dernier des résidents d'un des appartements de l'immeuble. Il a jusqu'à présent refusé toutes les propositions de dédommagement et affirme vouloir vivre dans son logement jusqu'à sa mort. Toutefois, les négociations se poursuivent et en 2013, le projet de bibliothèque, lancé déjà en 2004, pourrait donc peut-être enfin devenir réalité. Václav Havel, toujours modeste à 74 ans, précise qu'il ne veut pas en faire une institution servant à l'adoration de sa personnalité, mais un lieu où seront documentées les dernières décennies de son pays. Il pourra en tout cas bientôt y ajouter une copie de son premier long métrage, dont la première est prévue à la fin du mois de mars.
L'Orchestre Philharmonique de Prague a été fondé il y a 10 ans et il est spécialisé dans la musique de film et dans la musique classique. Il donne également des concerts à l'étranger, entre autres en France, en Suisse et en Belgique. L'orchestre enregistre cette semaine la musique destinée au spectacle du parc d'attractions français du Puy du Fou. L'enregistrement a lieu en présence d'une délégation française menée par le député européen et fondateur du parc, Philippe De Villiers. Plus de détails avec Alimoudine Ousmani.
L'Orchestre Philharmonique de Prague a eu l'occasion de collaborer avec l'UNESCO et avec le chanteur Florent Pagny, ce qui lui a donné l'occasion de se faire connaître dans le monde francophone. Il a également participé à l'ouverture du Festival de Cannes en 2005, ainsi qu'au 100e anniversaire de la musique de cinéma à l'Olympia. Le violoniste André Adé, d'origine tchéco-togolaise, nous explique la collaboration avec le Puy du Fou, le parc de Vendée pour lequel l'orchestre pragois enregistre en ce moment la musique.
On revient au Puy du Fou très souvent. On a commencé, ça fait 5 ans. On participe toujours à des spectacles qui sont avant les fêtes de Noël. On passe un mois au Puy du Fou en participant à ce grand show qui est préparé avec beaucoup d'inventions, beaucoup de magie. Nos amis français reviennent souvent ici pour préparer la musique pour les spectacles de la saison prochaine. C'est pourquoi ils sont là, on prépare une nouvelle musique pour un spectacle qui commence en avril.
L'eurodéputé français Philippe De Villiers explique les raisons qui l'ont poussé à choisir l'orchestre pragois pour l'enregistrement des spectacles du Puy du Fou.
Artistiquement, pour nous c'est le meilleur. Et on les connaît tous, donc je sais de quoi je parle. Ensuite, ce sont des spécialistes du cinéma, donc c'est un orchestre qui sait travailler comme nous on travaille, puisque nous on fait du cinéma de plein air. Puis il y a une dernière raison qui est la plus fondamentale, c'est qu'il y a entre nous maintenant des liens d'amitié profondes, puisque l'orchestre de Prague se déplace tous les ans, chacun son voyage. L'hiver, c'est l'orchestre de Prague qui vient au Puy du Fou pour le mystère de Noël. Il reste un mois. Et au printemps, c'est nous qui venons au Puy du Fou, à Prague pour enregistrer les musiques de la saison pour les nouveaux spectacles. Et il y a entre l'orchestre de Prague et le Puy du Fou un lien d'affection, d'amitié très fort, très solide, qui fait que pour nous, l'orchestre du Puy du Fou, c'est l'orchestre de Prague, c'est notre orchestre en quelque sorte. Ce sont nos amis, c'est une sorte de parenté affective.
En avril prochain, l'Orchestre Philharmonique de Prague ira à Paris, donner un concert à l'UNESCO. À son agenda figurent également de nombreux concerts de musique classique dans toute la France.
Et c'est la fin de ces faits-événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie. Tout de suite, on retrouve la rubrique « Les Tchèques célèbres et moins célèbres ». Aujourd'hui, Magdalena Rozinková nous propose d'entreprendre un voyage à la découverte du peuple rom, et ceci en compagnie de l'ethnologue Zbigniew Andreš, un des plus grands spécialistes de la langue et de la culture des Roms en République tchèque. Zbigniew Andreš nous parlera, entre autres, de ses périples dans les Balkans, ainsi que de ses séjours dans les villages tziganes en Slovaquie orientale.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
« Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de ce magazine. Quelque 250 000 Roms vivent actuellement sur le territoire tchèque et environ 400 000 en Slovaquie. Comme partout dans le monde, cette population est loin d'être homogène. La majorité écrasante des familles roms en République tchèque viennent justement de Slovaquie. On trouve ici également des Sinti et des Roms Ola. À savoir que les Roms tchèques n'existent presque plus, 90% de la population rome autochtone a péri dans les camps de concentration nazis. D'après l'invité de ce magazine, Zbigniew Andrzej, ce manque d'expérience personnelle avec les Roms du pays est partiellement responsable d'une certaine aversion des représentants de la société majoritaire à l'égard de leurs concitoyens roms. Zbigniew Andrzej, 55 ans, compte parmi les plus grands spécialistes tchèques dans les domaines de la langue, de la culture et de la civilisation rome. Il a étudié l'ethnologie, le romani et l'hindi à l'université Charles de Prague. Il enseigne lui-même le romani à l'université de Pardubice, donne des conférences et effectue des recherches sur la vie, la langue et les traditions des Roms. Recherches liées notamment à ses séjours dans des colonies roms en Slovaquie orientale. Zbigniew Andrzej parle et enseigne également le romani Kalderash, il explique.
Le romani Kalderash est intéressant parce que c'est le dialecte rom le plus répandu et aussi le plus vivant dans le monde. Il est parlé par des roms dans tous les pays européens, je crois, ainsi qu'en Ukraine et dans les grandes villes russes ou encore aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Amérique latine et même en Afrique du Sud. Le romani Kalderash pourrait donc servir de langue universelle de communication entre les Roms, étant donné que les autres dialectes diffèrent beaucoup et sont largement influencés par la langue du pays.
Le goût du voyage et de l'aventure, Zbigniew Andrzej l'a peut-être hérité de son père, Bohuslav Andrzej, né en 1926 à la frontière de l'Ukraine et de l'actuelle Moldavie, dans un village tchèque appelé Česká Alexandrovka et fondé par les exilés évangéliques tchèques au début du XXe siècle. Bohuslav Andrzej est revenu dans l'ancienne Tchécoslovaquie en 1945 en tant que soldat de l'armée du général Svoboda, une unité militaire tchécoslovaque formée pendant la guerre en URSS. Par ailleurs, les mémoires de Bohuslav Andrzej sont actuellement diffusées par la station Vltava de la radio tchèque. Avant de commencer à s'intéresser aux Roms, le jeune Zbigniew Andrzej partageait avec les autres Tchèques des idées stéréotypées sur ce peuple.
Pour moi, un Rom, un gitan, c'était un ouvrier terrassier, ou bien alors quelqu'un qui traîne dans la rue et dont il faut se méfier. Je n'ai pas pensé qu'il y avait un peuple aussi attirant pour un ethnologue, et même pour un historien et un linguiste. Mais il est vrai qu'à l'époque, je m'intéressais déjà aux Indiens.
À la fin des années 70, Zbigniew Andrzej entreprend un premier périple au sud-est de l'Europe et cela le marquera pour toute la vie.
Mon premier grand voyage m'a emmené dans les Balkans et en ex-Yougoslavie. Partout, j'ai vu des Roms. D'abord en Hongrie, mais surtout en Roumanie. C'était des Roms nomades qui circulaient à bord de chariots tirés par des chevaux. J'ai vu une colonne d'une quinzaine de chariots. Les femmes et les enfants étaient assis dedans, sur la paille. Les hommes marchaient à côté. Ils étaient habillés de façon traditionnelle. Cette image-là m'a marqué. Lors de mon deuxième voyage, je me suis rendu en Bulgarie, en Macédoine, au Monténégro, en Serbie et au Kosovo. Là encore, j'ai rencontré des Roms nomades, les Roms gourbettes de Bosnie ou encore les Roms musulmans de Macédoine et j'ai pu aussi les aborder. J'ai compris que l'idée que je me faisais auparavant des Roms a été tout à fait stéréotypée, fade et superficielle.
Suite à ses voyages, Zbigniew Andrzej s'inscrit au cours de langue et de civilisation rome enseigné dans une école de langue du centre de Prague. Depuis ce temps-là, il va régulièrement à la rencontre des Roms en Roumanie, en ex-URSS et le plus souvent en Slovaquie, dans la région de Spiš. Ces dernières années, il entreprend ses voyages en compagnie de sa femme Katarzyna, musicologue. Et l'été dernier, leur fille Bohdanka, alors âgée d'un an, a également fait le déplacement en Slovaquie orientale. Aujourd'hui, à l'époque où les Roms sont informés grâce aux médias et à l'Internet notamment de leur passé, leur culture et leur langue, l'arrivée d'un gadjo parlant le romani dans une colonie ne surprend plus personne. Mais cela n'était pas le cas il y a 20 ans, Zbigniew Andrzej.
Sous le régime communiste, quand j'allais chez les Roms en Slovaquie, j'étais confronté à des réactions différentes. Certaines personnes m'ont tout de suite accepté, elles m'ont pris pour un Rome et se sont comportées de manière tout à fait naturelle avec moi. Mais je me souviens aussi de ce qui m'est arrivé un jour à la campagne près de Stakchin. J'ai demandé quelque chose en Roumanie à un groupe de femmes et cela les a tellement amusées qu'elles étaient tordues de rire. Pendant environ 5 minutes, je leur parlais en Roumanie et elles me répondaient en slovaque, non pas parce que ces femmes ne connaissaient pas la langue rome, mais parce qu'elles n'arrivaient pas à comprendre pourquoi je leur parlais ainsi. C'était pour elles comme un sketch à la télévision.
Comment a donc changé depuis une vingtaine, une trentaine d'années la vie dans les colonies roms en Slovaquie?
Změnil se výrazně.
Elles ont beaucoup changé, mais pas dans leur ensemble. Sous l'ancien régime, ces colonies ont souffert de pauvreté. Les gens vivaient dans des cabanes faites de n'importe quoi, de briques non cuites, de traverses par exemple. Ces cabanes se sont conservées, mais à côté, vous pouvez voir aussi des villas et des voitures de luxe appartenant à quelques-uns des habitants des colonies qui ont réussi à bien gagner leur vie, mais ils ne sont pas vraiment nombreux. Il existe donc des différences sociales énormes dans ces colonies où tous les habitants sont liés par des liens familiaux, ce qui crée évidemment des tensions. Certains Roms aisés ont des ambitions politiques. Il existe actuellement, je crois, une dizaine de maires Roms en Slovaquie, ce qui a bien sûr des côtés positifs et négatifs.
L'intégration des Roms continue de poser problème en République tchèque aussi. Dernier exemple en date, le maire de la commune de Novi Bejov, en Bohême de l'Est, a accusé les Roms de la hausse de la violence dans la région. Il a même convoqué un rendez-vous des maires d'une cinquantaine de villes problématiques du point de vue de la cohabitation des Roms avec la société majoritaire, Zbigniew Andrzej.
D'abord, je refuse de parler de la question rome ou du problème des roms. Ce langage implique le constat qu'il existe un problème causé par les roms. Et c'est un problème de toute la société. Il serait faux de dire que les roms sont les victimes, discriminées par la société majoritaire, mais on ne peut pas non plus affirmer le contraire, dire que les roms sont les méchants, que la société majoritaire essaie en vain de cultiver, d'éduquer ou d'employer. Quant à ce cas concret de Novi Bejov, il apparaît qu'il s'agit d'une seule famille qui pose des problèmes là-bas. C'est une famille de tziganes, je ne dis pas des roms parce qu'ils ne parlent plus le romani entre eux, mais le hongrois. Et ils sont arrivés récemment du sud de la Slovaquie. Les autres habitants roms vivent dans cette ville depuis plus longtemps. Et maintenant, ils sont, par un concours de circonstances, intégrés dans ce groupe d'habitants non adaptables. Ce terme m'effraie. Il évoque le vocabulaire des nazis. À Novi Bejov, c'est un problème local. Les autorités devraient agir exactement comme le stipule la loi, sans raviver la rancune.
C'était donc l'ethnologue Zbigniew Andrzej, un des plus grands spécialistes de la langue et de la culture des Roms en République tchèque, que Magdalena Rozinková a donc rangé parmi les Tchèques célèbres et moins célèbres. Ajoutons encore que la situation à Novi Bejov, dans la région de Hradec Králové, devient préoccupante. Une importante manifestation d'extrémistes de droite et de gauche devrait s'y dérouler le 12 mars prochain. C'est déjà la fin pour aujourd'hui du bloc Actualité de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour de nouvelles infos. À très bientôt.